Bonsoir, merci à vous, merci à tous ceux qui sont là. Je suis très heureux d'accueillir quelqu'un qui on a une connaissance depuis de longue date, qui est Daniel Payot, puisque je l'ai eu comme professeur d'esthétique quand j'étais étudiant en art plastique, il y a déjà fort longtemps. Il y a, bah voilà, ça doit faire plus de 30 ans maintenant. C'est drôle, comme le temps passe. Alors, et comme nous passons nous-mêmes, je ne veux pas trop présenter Daniel parce que c'est quelqu'un qui a opéré sur tellement de champs divers dans le cadre de son activité d'intellectuel philosophe et puis de ses engagements que je ne pourrais pas me permettre de développer tout ce qu'il a fait, mais c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect par rapport à tout ce qu'il a fait et dit, et puis ce qu'il m'a apporté en tout cas dans la lecture aussi d'une esthétique contemporaine, voilà, à l'époque, voilà, qui m'a permis de me donner des clés pour comprendre tout ça. Et je suis content en tout cas qu'il ait accepté de venir ici pour vous essayer aussi de faire ce passage de clé que moi, on a pris plusieurs années pour le faire, parce que j'étais étudiant, c'était long, mais là, en une heure, il est très, très performant. Donc je pense qu'il va réussir à vous faire rentrer dans la tête tout ce qu'il a réussi à mettre en 3 ans, on va dire. Et puis, voilà. Merci, Daniel.
Merci, François. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais j'ai pensé, pour mon intervention, procéder comme un petit parcours, un petit sentier, enfin quelque chose comme ça, voilà. Un peu comme si on se baladait, et puis il y avait des étapes, des stations, et alors, malheureusement, ce n'est pas des œuvres d'art qu'on verra à chaque station, mais ce sont des textes. Voilà, donc j'ai préparé trois références, trois textes. Je vous les ai mis sur une feuille, donc je vous laisserai ça, mais rassurez-vous, on ne va pas plonger dans... On ne va pas faire des explications de texte. Hein. Bon. Mais si après, vous avez envie de revoir les textes, ils sont là. Hein. Donc, je ne sais pas où on les fait passer, où on les fera passer après. Comme vous voulez, c'est pas... Je les mets là, voilà, sur terrain neutre. Voilà. Et puis, les trois textes en question, je les ai pris... j'ai pris un écrivain, un philosophe et puis un artiste. Et vous allez voir, j'essaye de me balader dans ces références-là, hein, et à chaque fois, en essayant de dégager une idée, deux idées pour certains, du rapport entre l'art et la nature. Hein, c'est ça la thématique, hein, il me semblait que c'était un peu dans le paysage, hein, de parler de ça. Bon. Alors, mon parcours commence avec un écrivain irlandais qui s'appelle Oscar Wilde, hein, donc c'est la deuxième moitié du 19e siècle, il est mort en 1900, et il est plus connu par d'autres textes que celui dont je vais vous parler. Vous connaissez peut-être Dorian Gray, hein, ce roman où c'est quelqu'un qui a toujours une apparence extérieure identique, mais il y a un tableau dans son grenier qui se charge de son vieillissement et de toutes ses turpitudes. Et puis, bon, il a écrit plein de choses, un livret d'opéra qui s'appelle Salomé, hein, que Strauss avait repris pour l'opéra du même nom, etc. Alors, dans la page que je vous propose, Oscar Wilde, donc c'est un dialogue fictif, hein, entre deux personnages qui parlent de l'art. Et celui qui parle, dans l'extrait que j'ai choisi, il défend une position tout à fait paradoxale. Il dit, on nous raconte toujours que l'art imite la nature, hein, c'est l'adage depuis des siècles et des siècles, et il dit non, on nous rabâche ça depuis des siècles, mais pas du tout, c'est l'inverse. En fait, c'est la nature qui imite l'art. Alors, cette position, évidemment, elle est provocatrice, hein, elle ne va pas sans quelques problèmes poser au rédacteur lui-même, hein, pour maintenir sa logique de départ, mais par exemple, je vais juste prendre deux petits extraits dans cet extrait un peu plus long. Le personnage dit ceci, de nos jours, donc ça se passe, hein, je vous disais, Wilde était irlandais, et là, il situe son dialogue à Londres. Donc il dit, de nos jours, les gens voient les brouillards, hein, non parce qu'il y a des brouillards, mais parce que peintres et poètes leur ont appris le charme mystérieux de tels effets. Sans doute y eut-il à Londres des brouillards depuis des siècles, c'est infiniment probable, mais personne ne les voyait, de sorte que nous n'en savons rien. Ils n'eurent pas d'existence tant que l'art ne les eut pas inventés, reconnaissons d'ailleurs qu'on en abuse aujourd'hui. Alors, dans cette démonstration, enfin qui n'est pas une démonstration, qui est une position de principe, elle est répétée quelques lignes plus tard à propos des couchers de soleil, et c'est encore plus ironique. L'art, satisfait d'avoir obtenu un effet incomparable et unique en représentant des couchers de soleil chez Turner, chez les impressionnistes, donc l'art ayant réussi ça, passe à d'autres objets. Tandis que la nature, oubliant que l'imitation peut devenir la forme la plus injurieuse de l'insulte, persiste à reproduire cet effet jusqu'à satiété. Donc vous voyez là, l'art, enfin, espèce de gros bourrin, il a trouvé un truc pas mal, quoi, un jour, et puis du coup, la nature répète, ce coucher de soleil, voilà. Et la position d'Oscar Wilde, enfin, c'est pas vraiment la sienne, c'est celle qui prête à ce personnage, un peu dandy, un peu mondain, comme ça, bon, consiste à dire, non, vraiment, la nature, c'est vraiment pas bien, parce que ça persiste toujours dans l'identique, et l'art, au contraire, ça change, ça s'est modulé, etc. Donc, la nature, la réalité, l'effet brut, sont évidemment irréfutables dans leur présence, dans leur être. Mais cette présence est de l'ordre de l'évidence, du statique, de l'évidence massive, quoi. C'est comme ça. Et ça ne donne pas à voir. C'est la distinction dans l'extrait qui structure toute la démonstration, c'est celle-ci. Il y a des choses qui sont massivement, mais qui ne donnent pas à voir. Et donc il faut que l'art vienne pour donner à voir, y compris la nature. La nature, elle est ce qu'elle est, mais elle ne se donne pas suffisamment à voir. Donc il faut que l'art vienne révéler, découvrir, exposer quelque chose qui se trouve dans la nature, que le texte appelle sa beauté, mais que la nature ne sait pas promouvoir toute seule. Alors évidemment, la langue d'Oscar Wilde, ou plutôt celle du personnage qui prononce ces mots, ça va plus loin. Et, par exemple, quand le texte nous dit « les choses sont parce que nous les voyons », ou bien à propos des brouillards, ce que j'ai déjà cité, « ils n'eurent pas d'existence tant que l'art ne les eut pas inventés », bon, Oscar Wilde ici veut renverser simplement ce qu'il pense être cette loi séculaire de la théorie occidentale de l'art. Il veut donc remplacer l'art imite la nature par la nature imite l'art. Et c'est peut-être ce désir d'inversion simple, de retournement simple, qui produit dans le texte toutes sortes d'incohérences. Il faudrait analyser le texte de près pour voir qu'en fait, il tient pas sa logique. Parce que parfois, par exemple, dans ce que j'ai cité des brouillards, parfois, le texte nous dit « les choses sont parce que nous les voyons ». Et parfois, il nous dit « les choses sont, mais leur être demeure imperceptible tant qu'il n'a pas été révélé par l'art ». Et les deux propositions se ressemblent, mais elles ne sont pas tout à fait identiques. Elles ne disent pas tout à fait la même chose. De même, le texte oscille entre « sans doute y eut-il à Londres des brouillards depuis des siècles », c'est de l'ordre du constat, et puis dans le même passage, les brouillards n'eurent pas d'existence tant que l'art ne les eut pas inventés. Donc, si on rapproche ces deux propositions qui sont très proches dans le texte, on est dans une contradiction. Et on pourrait dire à l'auteur, bref, qu'est-ce que tu racontes, quoi ? Est-ce que tu nous dis que les brouillards étaient déjà là, mais qu'on ne les voyait pas ? Ou est-ce que tu nous dis qu'il n'y avait pas de brouillard du tout, que les brouillards n'existaient pas auparavant ? Donc, dans un cas, pour résumer, l'art fait être la chose, donc évidemment, c'est une proposition qui ne tient pas debout, mais que l'auteur et le personnage veulent tenir, quelles que soient les fautes logiques à quoi ça mène. Mais dans l'autre cas, l'art donc ne fait pas être la nature, hein, mais il la donne à voir. Hein, il donne à voir l'être de la chose, et là encore, c'est une nuance importante. Alors peut-être qu'une formule permet de dépasser cette dichotomie trop simple et schématique. Bon, Oscar Wilde écrit, donc, les brouillards n'eurent pas d'existence tant que l'art ne les eut pas inventés. Et je souligne ce dernier mot, hein, parce que il contient une, pas une difficulté, mais au contraire une chance. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire inventer, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'art, hein, avec Turner, avec d'autres. Bon, c'est l'art qui a inventé les brouillards à Londres. Ou bien, on comprend ça, inventer, au sens le plus courant, c'est créer, hein, c'est faire être. Et alors, la proposition est bien. L'art imite, non, enfin, l'art n'imite pas la nature, il lui donne l'être, il lui donne existence, il la crée. Et nous sommes là dans le pur paradoxe provocateur, hein, qui tient, qui ne peut pas tenir le coup. Mais il y a un autre sens du mot inventer. Hein, et c'est un sens qui d'ailleurs existe dans le vocabulaire juridique et puis qui a été la première acception du mot inventer, hein, et c'est en particulier quand on s'intéresse un peu à la théorie de l'art à la Renaissance italienne, on voit très souvent ce mot invenzione arriver dans les textes chez Léonard de Vinci, chez Michel-Ange, chez d'autres. Bon. Et le mot inventer ici ne veut pas dire faire être, il ne veut pas dire créer. Hein. Alors je prends juste un exemple, supposons que vous découvriez dans votre jardin un trésor. Ça, je vous le souhaite très vivement, hein. Ou que vous, en creusant comme ça, tout d'un coup, vous découvriez une grotte préhistorique. Hein. Juridiquement, vous serez l'inventeur du trésor ou l'inventeur de la grotte. Hein. C'est le terme juridique consacré. Et pourtant, ce n'est pas vous qui avez créé, inventé au sens de créer, hein, mais vous l'avez trouvé. Vous l'avez découvert. Le mot invention ici, il est construit sur le verbe être, hein, sur le verbe venir, pardon. Hein. Inventer, c'est faire venir. Hein. C'est donc exhumer, c'est porter au jour, c'est porter à la lumière ce qui auparavant était dissimulé, était caché, etc. Donc ici, vous voyez, on a un sens de l'invention comme découvrement. Hein. On découvre. Et on découvre au sens où tout d'un coup on est en face d'une réalité qu'on n'avait pas vue avant, mais on découvre aussi au sens où on enlève la couverture, hein, on enlève les sédiments. Hein. Voilà. Donc si l'art invente les brouillards, hein, ça peut être vu au premier sens du terme, il les fait être, et dans ce cas-là on lui dira, oui mais quand même, on n'a pas attendu la peinture anglaise du 19e siècle pour s'apercevoir qu'il y avait du fog à Londres. Hein. Mais si inventer veut dire découvrir au sens de, non pas tout d'un coup se rendre compte qu'il y a du brouillard, mais lui donner un sens, hein, jouer sur son apparence, hein, en faire quelque chose de remarquable, hein, voire de beau. Hein. Alors là, on comprend, hein, une autre signification. Et peut-être qu'on comprend à partir de là un peu mieux ce que veut dire Oscar Wilde en dessous de son aspect un peu provocateur, hein. La nature, elle est incontestablement, elle n'attend pas les artistes pour être, hein, mais elle contient en elle, elle recèle en elle, dissimulé en elle, hein, recouvert, des qualités, hein, que l'art peut exhumer, peut donner à voir, peut sortir de l'obscurité et porter à la lumière. Alors le texte de Oscar Wilde classiquement appelle ça la beauté, mais après tout, on pourrait trouver toutes sortes d'autres termes. Et on va petit à petit alors vers un sens plus nuancé, hein, que celui que nous laissait penser une première lecture. Non plus donc cette dichotomie simple et un peu simpliste à vrai dire, hein, mais une relation plus subtile, plus suggestive. Hein. La nature est, hein, son être contient une beauté qui demande à être mise au jour, et l'art donne cette beauté à voir. Et c'est peut-être ça que Oscar Wilde oppose à cet adage traditionnel « l'art imite la nature », hein, adage qui resterait pour lui trop statique. La nature, elle est déjà là, et puis on arrive, on reproduit son apparence extérieure. Donc on aurait la nature d'un côté, l'art de l'autre, alors que maintenant, avec cette histoire d'invention, il s'agirait de proposer une véritable relation entre les deux. L'art va chercher dans la nature quelque chose qui est déjà là dans la nature, mais que l'art peut exprimer, faire sortir, exposer. Donc la nature serait beaucoup plus complexe que ce que disent les phrases initiales que j'ai citées, qui bon, en suggèrent sans doute la complexité au moment même où elles semblent vouloir affirmer la simplicité. La nature serait à la fois du visible immédiat, il y a des brouillards à Londres depuis des siècles, et puis la nature, ça serait aussi de la profondeur implicite, du repli, de la réserve, tout ça, ça serait à intégrer à l'idée même de nature, bien sûr la visibilité, l'extérieur, mais aussi la réserve, le repli. Et pour que se révèle la beauté des brouillards, par exemple, ben il faut un regard, il faut un acte de voir et de donner à voir qui ne soit pas seulement l'être immédiat, la chose dans sa visibilité première. C'est ce que Wilde donc appelle ici l'art, mais peut-être aussi ce regard qui invente n'est-il pas l'apanage des seuls artistes. Peut-être qu'il y a aussi une façon de regarder, qui serait artistique dans cette capacité justement d'invention. C'est en tout cas une hypothèse qu'on pourrait formuler. Alors, une fois que je vous ai dit quelques mots sur Oscar Wilde, je reprends mon bâton, je marche sur mon petit sentier, et puis j'arrive à ma deuxième station de mon petit parcours, il n'y en aura que trois, rassurez-vous. Et dans cette deuxième étape, dans cette deuxième station, m'attend une sorte de surprise. Je ne sais pas, enfin, ça vous surprendra peut-être pas, mais je vais feindre d'être surpris, en tout cas. Donc, contrairement à ce qu'on a dit, redit très souvent, contrairement donc, à ce que Oscar Wilde feint de croire, la proposition « l'art imite la nature » n'a jamais été simple. Elle n'a jamais eu une signification canonique, unilatérale, comme peut-être on a proposé de le dire après. Alors là, ma deuxième station, c'est un deuxième texte qui n'a rien à voir avec Oscar Wilde. C'est un texte d'un philosophe français qui est mort dans les années 80, qui s'appelait Jean Beaufret, et qui, ce qui m'intéresse, ce n'est pas lui, c'est qu'il cite Aristote. Alors, vous rendez compte, là, je vous emmène dans mon petit sentier, dans une antiquité bien lointaine, 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi Beaufret cite Aristote, dans ce que je vais vous lire tout de suite? Parce que le petit bouquin dont j'ai extrait le paragraphe, c'est un petit bouquin, en fait, qui porte sur Hölderlin, le poète allemand, et Hölderlin entretenait avec Sophocle, le tragédien grec, des relations que Jean Beaufret essaye d'analyser. Bon, et puis, voilà, comme Aristote a défini la tragédie, du coup, voilà. Et on tombe justement, mais alors ça c'est pas dans la poétique où Sophocle parle de la tragédie, mais c'est dans la physique. Gardez le terme parce qu'il est relativement important. Enfin, c'est un traité d'Aristote qui s'appelle la physique, mais vous allez voir que physique, en fait, c'est physis en grec, c'est la nature. Enfin, c'est ce qu'on a traduit par natura, que le latin on traduit par natura et nous par nature. Donc la physique, ce n'est pas simplement des équations. La physique, c'est tout le rapport à la nature. Et c'est dans la physique, donc dans ce traité, qu'Aristote définit l'art en disant deux choses. Il dit l'art imite la nature, ça, il n'y a pas de question, il le dit effectivement. Et puis, un peu plus loin, il dit, donc je cite, « D'un côté, l'art mène à son terme ce que la nature a été incapable d'avoir œuvré, de l'autre, il imite. » Voilà. Donc, deux choses que fait l'art. Alors, comment comprendre ça? Est-ce que c'est Beaufray qui se pose la question, est-ce que l'art fait tantôt ceci, tantôt cela, c'est-à-dire est-ce que tantôt il imite et tantôt il pousse à bout, à terme, il mène à terme ce que la nature a laissé en quelque sorte en friche, ou bien est-ce que son essence est de ne faire ceci qu'en faisant aussi cela, demande Beaufray, c'est-à-dire est-ce que la notion d'imitation elle-même doit être comprise par rapport à cette deuxième proposition. Et il repart de là, Beaufray, pour revenir sur la notion de nature et de natif chez Hölderlin. Mais ça, je le laisse. Là, il prend un sentier un peu en biais. Hein, donc, je le laisse aller sur le sentier hölderlinien, qui va le ramener pas très loin d'ici. Enfin, si, quand même. Si. Mais moi, je continue mon petit chemin aristotélicien. Donc, on voit qu'Aristote aurait conçu les relations entre art et nature de deux manières, et non d'une seule. Et l'auteur propose donc d'articuler ces deux manières et de les comprendre dans leur solidarité. L'art imite la nature, ça pourrait vouloir dire l'art reproduit le plus fidèlement possible l'apparence extérieure des choses naturelles. Là-dessus, pas de surprise, c'est la notion la plus courante de l'imitation. Ici, on comprend la nature comme un ensemble d'êtres, de choses qui sont déjà. Donc je me balade, je vois un arbre dont l'apparence me plaît particulièrement, je prends mon crayon et je le dessine. Donc la nature, elle est déjà là, elle est déjà constituée. Tandis que l'autre proposition d'Aristote, qui a l'air beaucoup plus contournée, beaucoup plus compliquée dans son formulation, l'art mène à son terme ce que la nature a été incapable d'avoir œuvré. C'est une drôle de formulation, une drôle de traduction en tout cas. Donc, dans cette proposition-là, il y a une autre conception de la nature. Ici, si l'art mène à son terme ce que la nature a été incapable d'avoir œuvré, alors on est dans une question de mouvement. La nature n'est pas prise ici comme une chose statique, une chose qui est déjà là, mais la nature est comprise comme une énergie, comme un mouvement, comme une croissance, une éclosion et une croissance. Voilà. La relation entre art et nature se situe alors dans une forme de temps, de temporalité. On n'est pas dans le face-à-face statique, il y a un arbre qui est là, et il y a mon dessin qui est là. On est dans quelque chose de plus complexe. L'arbre, il m'intéresse, mais ce qui m'intéresse dans la nature et dans cet arbre, c'est sa croissance. Il n'a pas une forme définitive. Il change, il est vivant, en quelque sorte. Et ce à quoi l'art se rapporte, c'est à cette vie, à ce dynamisme de la chose naturelle. Donc, non pas un ensemble statique de choses déjà là, déjà formées, mais la nature est éclosion, croissance, développement, etc. Donc, quand Aristote écrit que la nature n'a pas œuvré tout ce qu'elle met en mouvement, cette formulation ne doit pas être comprise en un sens péjoratif. Il ne s'agit pas de dire, comme Oscar Wilde, la nature elle est un peu nulle parce qu'elle ne va pas au bout des choses. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de constater qu'il existe dans la nature une multiplicité de processus qui se perpétuent indéfiniment, qui ne s'achèvent pas, qui n'aboutissent pas à une forme d'accomplissement définitive. C'est ça que voudrait dire œuvrer. Donc l'art produit des œuvres, la nature, elle est toujours dans la vitalité dynamique. Donc la mobilité naturelle n'a pas de terme, en quelque sorte. Et ça serait ça, si on rend solidaires les deux propositions d'Aristote, ça serait ça que la nature imite et parachève. La physis, donc, qui a donné son nom à physique, la physis, la nature, comme mouvement constant, comme mouvement sans terme. C'est ça que l'art imite. C'est pas la chose déjà formée, c'est le processus de formation, on pourrait dire comme ça. Donc ici, il ne s'agit pas simplement de reproduire l'apparence extérieure, l'apparence immobile des choses naturelles. Il s'agit d'imiter leur croissance, le processus de leur éclosion et de leur développement. Il s'agit de faire œuvre de ce processus, de le fixer dans une œuvre, dans une forme arrêtée. C'est le processus même de fabrication de l'œuvre qui imite la nature, son mouvement créatif, sa poétique, et non l'exactitude et la fidélité de la représentation. Alors, peut-être plus exactement, sans doute, pour Aristote, comme pour les Grecs de l'Antiquité, qui ont parlé de l'art, et comme, sans doute, pour les Européens, qui plus tard, pendant des siècles, ont répété la formule, bon, il s'agit, en fait, des deux. Hein. Il s'agit, bien sûr, d'une reproduction fidèle de l'apparence extérieure des choses naturelles, hein, mais il s'agit aussi de se rapporter à ce mouvement créatif, poétique, reprenant et parachevant la dynamique, le mouvement d'éclosion et de croissance de la nature. Donc ici, la nature est comprise doublement. Et je pense que dans la pensée philosophique, en tout cas en Occident, depuis très longtemps, hein, donc je pense depuis l'Antiquité, mais c'est particulièrement formalisé au XVIIe siècle par un philosophe qui s'appelle Spinoza, hein, et qui faisait une distinction entre deux natures. Alors, il écrivait en latin, hein, donc il parlait de natura naturata et de natura naturans. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas si compliqué que ça. La natura naturata, donc la nature naturée, hein, c'est la nature comme résultat, c'est la nature comme ensemble de choses qui sont là, hein, qui existent. Elle est formée, hein, elle est, voilà, elle est accomplie. Alors que la natura naturans, hein, c'est un adjectif verbal, hein, la nature naturante, hein, évidemment, c'est pas, dans les conversations courantes, ce n'est pas très fréquent de parler comme ça, mais la nature naturante, hein, c'est ce mouvement, cette dynamique, cette création, cette éclosion, cette croissance, ce mouvement constant. Hein. Donc l'art imite la nature, oh, d'accord, mais quelle nature, hein? Est-ce que l'art imite l'apparence extérieure, statique, des choses, ou est-ce que l'art imite le mouvement de croissance et de développement des choses? Ça peut être les deux, mais les deux idées sont différentes. Hein, mais elles peuvent être conjointes, et je pense qu'elles le sont. La dualité de ces deux définitions de la nature, bon, il s'agirait de l'entendre dans l'expression « l'art imite la nature », qui serait donc pas seulement à rapporter au premier sens le plus courant, le plus figuratif du terme. Et ça m'amène à ma troisième et dernière station, hein, où là je vais vous parler, donc je vous ai parlé de l'écrivain Oscar Wilde, du philosophe Aristote, et puis maintenant je vais vous parler d'un artiste, peintre, sculpteur, poète, qui s'appelle Arp, donc, qui n'est pas tout à fait un inconnu par ici, hein. Il était né à Strasbourg en 1886. Hein. Ah, d'accord.
Il faut vraiment déplacer.
Donc il faut que la scénique merci, s'efface. Non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Jean Hans Arp, moi je l'appelle toujours comme ça parce que il est à la fois, il est tantôt français, tantôt allemand, Arp. Hein, comme il est né en 1886 à Strasbourg, il est né allemand. Hein, et puis ensuite il est revenu français, puis après il est parti en Amérique pour être loin de ces affaires-là. Bon, Arp est un des fondateurs du mouvement Dada, hein, à Zurich en 1918. Et là, j'ai choisi plusieurs textes, je ne vais pas tous les évoquer, mais vous verrez dans le document, si ça vous intéresse, j'ai pris plusieurs extraits d'un même gros bouquin qui a été publié dans au milieu des années 60, hein, peut-être à la fin des années 60, par Gallimard, qui reprend plein de textes. Arp a toujours beaucoup écrit, il a commencé comme poète, hein. Quand il a fondé Dada, co-fondé Dada, il l'a fait en tant que poète, hein. C'est ensuite qu'il s'est mis aux arts plastiques, Sophie Teuber l'a beaucoup aidé à devenir plasticien, et puis après il s'est mis surtout à la sculpture, mais au départ il est poète, et il a continué à écrire beaucoup, et là c'est un livre qui s'appelle Jours effeuillés, et c'est un livre de souvenirs qui est très intéressant parce qu'il revient justement sur toutes les périodes qu'il a traversées, en particulier la période de la création de Dada. Donc, Arp, si je prends son œuvre en général, c'est un artiste qui n'est pas un artiste figuratif. À aucun moment de son parcours artistique, il n'est figuratif. Et pourtant, il a toujours refusé l'expression, la dénomination d'art abstrait. Parce qu'il dit, moi je n'abstrais rien du tout. Il fait semblant de prendre le terme abstrait au sens verbal du terme. Abstraire, c'est il y a quelque chose qui est là et j'en abstrais quelque chose. Il dit, moi j'abstrais rien du tout, mais productions artistiques sont concrètes. Hein, et donc, il avait proposé, pour sa propre production et celle de ses amis, d'appeler ça de l'art concret, en disant, finalement, moi, ma sculpture, elle a la même présence, la même qu'une chose qui est là à côté, bon, y a pas de, ou une chose naturelle, il n'y a pas de différence. Donc, art concret parce que produit, parce que cet art a la même consistance, la même manière d'être que les choses de la nature. Donc l'art concret dans le vocabulaire de Harp, c'est à la fois donc, le refus de la représentation des apparences extérieures de la nature, donc il récuse le premier sens de l'art imite la nature, hein, il dit moi je n'imite pas au sens figuratif du terme la nature, mais c'est surtout la décision artistique de faire comme la nature. Ce petit mot de comme est très important dans les explications que Harp donne de ses propres essais artistiques. Bon. Faire comme la nature, être créateur et désintéressé comme la nature, transgresser comme la nature les frontières du conventionnel. Je le cite, « Nous ne voulons pas copier la nature, nous ne voulons pas reproduire, nous voulons produire, nous voulons produire comme une plante qui produit un fruit, et ne pas reproduire, nous voulons produire directement et non par truchement. » Harp conçoit d'abord l'art comme un éloge sans réserve de la création. L'œuvre est un fruit, hein, il le redit à plusieurs reprises, et cette proposition est à entendre de la façon la plus littérale possible. Hein. De même que tel arbre produit des fruits, de même moi, artiste, je produis des œuvres. La création n'est bridée par rien. Elle n'obéit à aucune injonction autre que sa propre puissance de créer. Elle ne se réfère à aucune fin extérieure. Elle est libérée de toute obligation de fonder sa légitimité. De même qu'on ne demande pas à l'arbre bah, « Tiens, pourquoi tu produis ce fruit ?» Alors, il le produit, point final. Donc cette intensité, cette autonomie absolue chez Harp viennent justement d'une conception de la nature comme inépuisable production. Alors je cite à nouveau, l'art est un fruit qui pousse dans l'homme comme un fruit sur une plante ou l'enfant dans le sein de sa mère. Mais tandis que le fruit de la plante, le fruit de l'animal, le fruit dans le sein de sa mère prend des formes autonomes et naturelles, l'art, le fruit spirituel de l'homme, fait preuve, la plupart du temps, d'une ressemblance ridicule avec l'aspect d'autres choses. Ce n'est qu'à notre époque que la sculpture et la peinture se sont libérées de l'aspect d'une mandoline, d'un président en habit, d'une bataille, d'un paysage. J'aime la nature, mais non ses succédanées. L'art naturaliste, illusionniste, est un succédané de la nature. Je pense que la nature n'est pas en opposition avec l'art. L'art est d'origine naturelle et se sublime et se spiritualise avec la sublimation de l'homme. Alors, évidemment, il y a une sorte d'emphase comme ça de temps en temps. Je vous reciterai tout à l'heure quelque chose qui est un peu... Il en badigeonne un peu beaucoup. Mais l'idée générale, on la voit. Quoi. Pour Harp, ce qui est important, c'est de comprendre cette liberté infinie du créateur. Et pourtant, cette liberté infinie du créateur n'est pas un pouvoir. Hein, il est très attentif à ça. Il n'y a pas de volonté de puissance du créateur. C'est pas bon, l'idée de l'artiste chez Harp, c'est pas celle du génie créateur romantique, si vous voulez, hein, qui est tout puissant. C'est pas du tout. C'est pas une sorte de religion de l'art chez Harp. Hein. C'est presque l'inverse. Hein. De même que la nature agit comme force anonyme, dit-il. De même, la création artistique déborde les seuls contours de la subjectivité individuelle. Et il écrit par exemple ceci, « Les œuvres de l'art concret ne devraient plus être signées par leurs auteurs. Ces peintures, ces sculptures, ces objets devraient rester anonymes dans le grand atelier de la nature, comme les nuages, les montagnes, les mers, les animaux, les hommes. » La leçon que donne la nature, donc, c'est ici simultanément de puissance et de modestie, si on veut. Hein. Et cette simultanéité est une sorte de marque de harpe. Hein. L'énergie créatrice est sans borne. L'atelier, le grand atelier de la nature, possède des dimensions infinies. Hein. Mais les fruits et les fleurs valent pour eux-mêmes. Hein. Leur présence suffit. Hein. Elle n'a pas à être confisquée. Hein. Elle va toujours plus loin que la seule restriction de tel ou tel nom propre. Hein. Et finalement, l'artiste, même s'il signe ses œuvres, parce que harpe les a quand même signées, hein, l'œuvre, en quelque sorte, va toujours plus loin que l'artiste. Hein, parce que, de même que le fruit, comment dire, s'émancipe au bout d'un moment. Hein, là. Donc la signature aurait ici un effet d'appropriation hein, abusive. Ça serait le signe d'une revendication imméritée. Et en même temps, évidemment, il n'est pas possible de ne pas signer. Quoi. Donc, il y a cette contradiction, ce paradoxe qui est intéressant dans ce que relève Harpe. Alors, dans ses écrits, il y a une certaine idée de la création artistique comme œuvre qui est toujours collective, hein, plus ou moins collective, enfin, plus ou moins exactement collective, mais même quand elle est faite par un seul, il y a une dimension de collectif. Et il ajoute ceci, les hommes devraient rentrer dans la nature, les artistes devraient travailler en communauté, comme les artistes du Moyen-Âge, et on comprend la logique, hein, dans la mesure où elle est analogue à la création naturelle, la création artistique ne peut être que collective, hein, chaque réalisation vraiment artistique dépassant les limites de telle ou telle individualité, aussi géniale qu'elle puisse être, hein, et rejoignant cette grande puissance sans nom, sans mesure, qui fait être toute chose. Hein. Il y a cette dimension-là très créativiste, enfin, je ne sais pas comment dire, chez Harpe. Hein. Donc cette voie est celle d'une certaine torsion aussi de l'humanité. Enfin, Harpe termine souvent ses explications par une dimension que j'appellerais éthique, et puis je pourrais terminer là-dessus, hein, parce que il y a un enjeu là-derrière dans ce qu'il raconte hein, sur le rapport à la nature, parce qu'il voit la nature comme, alors dire qu'il la voit comme bonne en général, ça serait peut-être excessif, mais en tout cas, il voit l'humanité comme s'enfermant, bon n'oubliez pas qu'il a commencé sa carrière artistique en 18 avec Dada, hein, on est en pleine Première Guerre mondiale, et puis ensuite, le 20e siècle, ça a été quand même... Ce que l'humanité a inventé de pire depuis le début, hein, dans la guerre, dans l'extermination, etc. Donc Harpe est quelqu'un qui est à la fois extrêmement ouvert sur la création et toujours optimiste d'une certaine façon, hein, parce que faisant l'éloge de la création, mais en même temps c'est quelqu'un très angoissé, très inquiet quand il voit ce que l'humanité est devenue. Hein. Et donc à cette puissance positive qu'il voit dans la nature, il oppose souvent ce qu'il appelle la vanité de l'humain hein, et cette espèce de revendication de devenir maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes. Hein. Donc ça, il voit une accentuation de ce courant-là dans l'humanité avec le XXe siècle. Hein. Le XXe siècle, bon, peut-être que ça avait commencé bien avant, hein, mais le XXe siècle serait pour lui, dans ses horreurs, le résultat de ce dévoiement. Hein, l'humanité a oublié hein, qu'elle n'était finalement qu'un fruit naturel, quoi, hein, pour s'arroger le titre de maître, de possesseur. Bon, et tout ça a conduit à des hostilités, à des guerres. Bon, et donc, Harpe dit, l'art concret peut aussi, hein, dans une certaine mesure, nous sortir de cette angoisse, de cette mélancolie, et nous rappeler, le côté positif de la création, à condition que on comprenne que créant en tant qu'humain, on fait comme la nature. Donc on pourrait dire que Harpe prend peut-être toute la mesure de la deuxième acception qu'on trouvait chez Aristote, hein, vous vous rappelez, l'art imite la nature au sens de imite statiquement l'apparence extérieure des choses, ou bien l'art imite la nature au sens de l'art refait hein, ce mouvement, ce geste créatif qui est déjà naturel. Donc au fond, Harp est complètement dans cette deuxième compréhension de la relation entre art et nature. L'art est comme la nature, pure dynamique, pure croissance, vivante. Donc on est aux antipodes ici de la compréhension figée de la formule « l'art imite la nature » contre laquelle Oscar Wilde développait ses considérations ironiques et paradoxales. Voilà. Mais peut-être, pendant le parcours, a-t-on perdu, avec Aristote, puis avec Harpe, a-t-on perdu, en tout cas on l'a un peu oublié, mais ce qui est bien, le sentier ici, on va jusqu'à un certain point, puis on revient après. Donc on peut aussi, nous, dans mon petit parcours de texte, on peut aussi revenir. Peut-être qu'on a perdu de vue quelque chose qui mériterait peut-être d'être encore développé, c'est cette idée d'invention. Peut-être qu'avec l'art imite la nature au sens simple du terme, on a peut-être aussi balancé dans les orties cette idée, l'art invente, pas au sens dit seulement il crée, mais il fait, il exhume, il découvre. Voilà. Donc se donner à voir, le découvrement, voilà. L'exhumation des strates cachées de la nature. Alors à chacun de choisir la conception qui lui plaît le plus. Donc je résume celle qu'on a vue dans nos petites étapes de notre sentier. La reproduction de l'apparence, enfin, l'art comme reproduction de l'apparence extérieure de la nature. L'art comme répétition de la puissance créatrice de la nature, l'art comme révélation de qualités recelées dans l'être-là, dans l'évidence immédiate de la nature. Ça, c'était les trois types d'articulation entre art et nature qu'on a trouvé dans notre petite balade. Mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. Il y en a sans doute beaucoup d'autres et peut-être ça pourrait vous venir maintenant en disant, mais enfin là, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il vous ennuie, et il n'a toujours pas parlé de telle ou telle conception du rapport entre art et nature. Donc je vais m'arrêter là, parce que je ne vais pas faire semblant d'en sortir de ma poche une quatrième, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Merci beaucoup de votre longue attention. Voilà, donc vous savez que si les textes vous intéressent, ils sont là.
On peut peut-être poursuivre sur des questions.
Oui, bien sûr.
Oui, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse et que je pourrais presque essayer, de manière un peu assez modeste, de résumer avec un mot qui m'intéresse bien, qui est le mot laboratoire. Est-ce que la nature n'est pas quelque chose comme une sorte de laboratoire? Est-ce que l'art aussi n'est pas dans le terme de laboratoire? Dans laboratoire, il y a le labeur, il y a le côté oratoire.
Ouais,
c'est... J'aime bien les deux.
Ouais, c'est vrai.
Non, c'est une petite piste comme ça.
Ouais, absolument. Qui viendrait compléter, Harpe parle de l'atelier, de la nature en tant qu'atelier,
ça, ouais.
Mais dans le mot laboratoire, oui, il y a plus que ça. Il y a le travail.
Oui, c'est ça. Ouais, on est dans l'enfer.
C'est ça. Il y a le travail et puis l'oratoire, c'est... L'oratoire, c'est aussi la prière. Là, c'est encore autre chose, mais...
Parce que... C'est la mystique de l'art aussi.
Oui, il y a quelque chose de très... Enfin, Harpe a, je sais pas si c'était par ses lectures ou par sa culture, mais il y a quelque chose qui est très rattaché à ce romantisme allemand, au premier romantisme allemand. Pas celui, justement, de la génialité, mais le premier romantisme allemand, celui qui mêle... Enfin, création, dynamisme, et puis aussi ces enjeux un peu mystiques, je ne sais pas, mais... Ouais. Et puis une certaine conception globale, totale de la nature. Quoi.
On retrouve un peu ce côté un peu humaniste de l'art chez les anthroposophes aussi.
Ouais, c'est ça, c'est le fait de relier l'art à d'autres, à des expériences, enfin à d'autres, un autre type de rapport au monde, quoi, c'est ça? Tu pensais à...
Oui, puis la modestie aussi.
C'est ça. C'est drôle d'ailleurs, parce que dans cette génération-là, parce que je pensais à Clay aussi, il y a souvent cet aspect-là. Quand Clay dit, par exemple dans... dans ses conférences sur l'art moderne, là, il dit j'ai essayé dans la peinture, il se réfère au cours qu'il donnait au Bauhaus de peinture. Il dit on a tout essayé, on a mélangé les formes, les couleurs, etc. Et puis il faudrait maintenant faire une sorte de grande synthèse de tout ça. Et il parle du grand œuvre. Le grand œuvre, c'est un terme d'alchimiste, hein, finalement. Et il faudrait arriver à ce grand œuvre, et puis on n'en est pas là, on ne peut pas y aller, parce qu'il faudrait qu'on soit porté par un peuple, enfin, etc. Cette dimension un peu... Oui, je ne sais pas s'il était anthroposophe ou...
Si, il a rencontré justement Iten est anthropo.
Oui, Iten, oui. Oui, oui. C'est étonnant, hein, ce moment du début du XXe siècle, ça, où il y a à la fois une sorte d'émancipation formelle extraordinaire, quoi, une liberté formelle extraordinaire, et en même temps, il faut appuyer ces conquêtes de liberté sur des pensées qui sont parfois lourdes, quoi. Enfin, je sais pas, si on pense à Malevitch ou même à Mondrian. Enfin, c'est pas une contradiction, hein, c'est au contraire, mais moi ça m'a toujours intéressé. Enfin, surtout les théoriciens de l'abstraction, ben Kandinsky le premier, quoi. Il leur faut du spirituel derrière. Je sais pas où on en est, nous, par rapport à tout ça. Mais c'est le problème des artistes. Hein,
justement, moi, je même n'étant pas artiste, je suis quand même très, très surpris de l'intellectualisation de voir jusqu'où effectivement les artistes réfléchissent presque de manière philosophique, puisque Aristote, soit pas du contraire, c'est plutôt un philosophe qu'un artiste, et on voit effectivement que les réflexions sur l'art et la nature commencent il y a très longtemps, et elles évoluent aussi peut-être en fonction du temps, parce que Oscar Wilde c'est bien daté, etc. Et évidemment, il y a toute cette réflexion qui se poursuit après avec enfin, l'abstraction, etc., elle est sous-tendue par une réflexion intellectuelle. Moi, ça me surprend un peu, je dirais. Et je dirais, parce que moi, j'avais l'impression, jusqu'à présent, que ces créations étaient plutôt primitives. Okay. Et donc, ça m'interpelle aussi sur disons, les processus de création dans les sociétés primitives. Est-ce qu'on a la même démarche intellectuelle pour pouvoir créer? Est-ce que c'est là aussi, bon, parce que là aussi il y a une sublimation de la nature, à l'évidence, avec mais bon, intéressant.
J'avais envie de partager une perception personnelle, hein, du rapport entre la nature et l'art. Je le vois du côté tout ce qui est sensoriel, hein. C'est tout ce que la nature peut apporter à l'humain en tant que bénéfique ou pas, bousculant les sens, et que l'art a exactement le même effet sur l'humain. Ça bouscule les sens, la vue, les émotions, etc. Voilà. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'importe.
Oui, c'est une autre modalité du comme, voilà. Quoi.
Et en quoi ça participe à aller plus profond en soi-même, quand on est face à la nature ou face à l'art, qui est le travail d'artiste quelque part, de toucher ça, mais de regarder l'art, d'être en contemplation, ben, ça peut apporter ça, de réaliser aussi, et que ça participe à la connaissance de soi, des sens par l'art et la nature.
Merci. Vous savez, sur les sociétés alors primitives, je ne sais pas si le terme désigne une société particulière, mais moi je me suis intéressé à un certain moment à l'art africain traditionnel. Alors, dans l'art africain traditionnel, il n'y a pas cette intellectualisation dont vous parlez, mais il n'y a pas non plus cette espèce de spontanéité artistique immédiate. D'abord, il n'y a pas de mots qui désigne, ou ça dépend des langues, hein, mais il y en a des tas de langues africaines, mais dans celles, non pas que je connais, parce que j'ai, bon, mais d'après ce que j'ai pu déchiffrer, il n'y a très souvent pas de mots qui désigne très spécifiquement un type de production qui serait ce que nous appelons de l'art. Donc, il y a des gens qui taillent des statuettes, il y a des gens qui font des masques. Ils ne sont pas considérés comme des artistes parce qu'il n'y a pas de mot. Alors, entre parenthèses, c'était le cas en Grèce. Chez les Grecs, le poète, c'était celui... Poète, c'est celui qui faisait être ce qui n'était pas avant. Donc ça désignait les sculpteurs et les peintres, mais ça désignait aussi les artisans.
Enfin, le boulanger. Je dis le boulanger.
Le boulanger, etc. Oui, bien sûr. Donc le mot techné, qui a été traduit en latin par ars et qui est devenu art chez nous, le mot techné, il désigne tout type de fabrication. Et il n'y a pas de distinction, il n'y a pas dans la langue de distinction. Donc c'est ce qui se passe aussi dans les langues africaines, mais c'est pas pour autant qu'il y a une sorte de spontanéité. Parce que au moment où le sculpteur taille sa statuette, il sait très exactement dans quel contexte il la taille, et à quoi elle va servir, etc. Elle ne va pas servir à être posée là pour faire joli dans un salon. Elle va servir dans un rite donné, elle va se retrouver chez un guérisseur, on en a vu en Afrique, dans les salles de consultation des guérisseurs, où le guérisseur dit, t'as un problème, donc tu vas te faire une statue par des gens qui sont habilités, c'est pas n'importe qui. Et tu reviens, d'ailleurs, au moment où il taille, chez les lobbies, en tout cas c'est un peuple que j'ai un peu plus regardé de plus près, donc c'est au sud du Burkina Faso, enfin la limite entre le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les lobbies qui vivent là, au moment où le sculpteur taille une statuette qui va avoir une fonction rituelle, il ne faut pas qu'il soit vu. Donc quand on va maintenant chez un sculpteur, on voit à l'air libre, si je puis dire, il taille des trucs, mais ça, on peut être sûr qu'il n'est pas en train de faire quelque chose qui va ensuite servir dans un culte animiste. Si c'est le cas, on ne le voit pas. Et puis ensuite, cette statuette, elle se retrouve chez le guérisseur, et puis elle subit toutes sortes de sacrifices. Elle ne reste pas intègre, elle est recouverte de tas de trucs. On égorge des poulets dessus, on met des sédiments, enfin... Des trucs, des fois, on se dit, il vaut mieux pas trop analyser le machin. Quoi. Mais ils se débrouillent. Voilà. Donc, au fond, le geste de fabrication est précédé, non pas par des théories intellectuelles, mais il est précédé par des modes, de spiritualité, qui sont pas, qui font partie de la vie courante. C'est pas une idée religieuse d'une transcendance éloignée. C'est il y a des rites qui structurent, qui scandent la vie quotidienne. Et c'est ça qui précède. Ce qui fait qu'il y a évidemment des marges de manœuvre dans la représentation. Mais ces marges de manœuvre, elles sont comprises dans des conceptions, des structurations globales qui sont très précises. Il faut attendre, je pense, une époque finalement pas très loin de la nôtre pour qu'il y ait cette idée d'une création spontanée. Et même quand Dubuffet, par exemple, a inventé son histoire d'art brut, il a raison de le faire, mais Dubuffet était quelqu'un qui était terriblement cultivé. Dubuffet n'arrêtait pas de dire du mal des intellectuels, de ceux qui ramenaient l'art à la culture, etc. Il se disait anti-culture, même. Mais lui-même, il écrivait... très bien, il savait très bien. Bon. Et ce qu'il a, bon. Mais en même temps, il a eu ce mérite de discerner chez certaines personnes qui se pensaient pas elles-mêmes des artistes, une puissance de création, puisqu'il avait commencé dans les asiles psychiatriques, et puis après ça s'est élargi. Mais d'une certaine façon, ce qu'on pourrait dire, même si on ne théorise pas trop intellectuellement, mais on pourrait dire que les images qui sont produites de façon spontanée, non pas dans un but artistique, mais dans une simple puissance d'expression par ces gens-là, ces images apparaissent comme artistiques, et on va les appeler de l'art brut, parce qu'on a déjà en tête quelque chose, on sait déjà ce que c'est clair, enfin, ou on ne sait jamais ce que c'est clair, hein, rassurez-vous. Bon. Mais on a déjà intégré cette dimension-là. Hein. Il faut l'intégrer. Et ce qui n'est pas le cas dans les sociétés africaines dont je parlais. Par exemple, une statuette qui a servi dans un culte, dans un rite, hein, elle a été piquée par une expédition quelconque, hein, un griole quelconque qui passait par là. Ils ne se sont pas privés d'ailleurs d'en chourer quelques-uns, comme ça. Hein. Ensuite, ça s'est retrouvé au musée de l'Homme à Paris, puis maintenant au musée du Quai Branly. Et maintenant, c'est exposé. Voilà, c'est exposé comme une œuvre d'art. Hein. Le lien qu'on fait, c'est entre ce qu'on voit dans la vitrine et une certaine histoire de la sculpture, hein, dont on sait qu'elle est très plurielle, qu'elle passe par des tas de cultures différentes, mais malgré tout, on la rattache à ça. Alors qu'au moment où elle a été taillée, cette sculpture, il n'y avait pas du tout cette intertextualité-là. Quoi. C'était pas, ça ne renvoyait pas du tout à ce type-là d'histoire.
Et c'est inévitable. Correspond à des rituels, il y a des intentions magiques qui sont données dans la fabrication, c'est des processus.
C'est ça.
Tu retrouves ça dans les ex-votos.
Oui.
Fait un peu le lien avec cette culture-là. C'est pas totalement étranger non plus.
Ah non. Mais c'est vrai que.
Après, le mettre dans un musée, c'est la mort de l'objet.
Ouais.
C'est ça.
Ça existe, mais ça n'a pas été intégré dans l'histoire de l'art en Europe. C'est marrant, hein? Ou pas.
Enfin, non,
difficilement. Difficilement. Par exemple, je ne sais pas, quand Didier Huberman s'intéresse à la Renaissance ou tout ça, il fait voir ce genre de choses. Hein, en disant Panofsky est passé à côté. Bon, Panofsky est un historien de l'art qui a écrit des choses formidables, hein, c'est très bien. Mais il a, d'une certaine façon, officialisé, de même que les artistes de la Renaissance, hein, eux-mêmes, ont officialisé une certaine façon, un certain mode de production. Et ils ont laissé tomber l'idée qu'un ex-voto puisse faire partie de l'histoire de l'art. Et pour nous, et encore, si on fait ça,
Moi, je suis un peu provocatrice et il me plaît à dire que l'art et l'artiste, c'est vraiment une notion occidentale qui apparaît à la Renaissance. C'est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité.
Bon,
donc, qu'on monnaie encore un peu aujourd'hui, mais jusqu'à quand ça va perdurer, on ne sait pas. C'est très provocateur.
Les artistes, là, de traiter d'épiphénomène, ça vous embête pas? Non, ça va, c'est bon.
C'est un accident spatio-temporel.
Il y a des accidents qui sont très bien.
Ah, oui, non, mais
par accident, on peut trouver
des. C'est de la provocation.
Non, je sais. Mais c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas si longtemps que ça, que l'art apparaît sans qu'on puisse jamais le définir de façon satisfaisante, mais apparaît comme une sphère à part. Autonome, ça voudrait dire qu'il y a ses propres lois en elle-même, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas une sphère spécifique. Quoi. C'est récent. Quoi. Oui, c'est... Mais en même temps. Ouais, facile. En même temps, c'est peut-être un peu en train de changer. Il y a peut-être moyen maintenant.
Il y a des chercheurs en art pariétal qui sont en train de revenir sur ce qu'ils disaient auparavant, en disant il désignait un mammouth sur le mur parce qu'il voulait chasser le mammouth.
Oui, oui.
Non, en fait, de revenir sur
ça. Fait oui, absolument.
Et de dire qu'effectivement, ils pensent que les personnes qui peignaient ça, ils le peignaient dans un but artistique.
En tout cas, il se passe à ce moment-là quelque chose d'absolument incroyable. Quoi. C'est incroyable, ce passage à l'image. Quoi. De toute façon, quelle que soit la signification qu'on lui donne, le simple fait qu'il y ait image, c'est un truc faramineux. Ou même si ce n'est pas une image, même le simple fait de mettre l'empreinte de ses mains, hein, c'est dingue, parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans l'immédiateté comme ça, on n'est plus simplement dans l'être des choses. Quoi. On prend une distance, on la...
Et les dernières recherches, paraît-il, disent que c'est un
En plus.
C'est marrant parce que ça, on n'y pense jamais. On dit ils étaient des peintres.
C'est les femmes qui faisaient les images.
Parce qu'eux, ils ont étudié les femmes sur les mains. Ils en ont déduit que
non, mais c'est bien.
Ce serait des femmes. Bien.
Non mais c'est très bien, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est très bien.
Qui a entendu ça? C'est
moi. Oui, ça me plaît plutôt comme hypothèse.
Pendant que les mecs, ils allaient chasser une mamie. Je sais
pas. Il y a des choses là.
Tu parles? Parle plus fort.
Le Renaud Ego, le Renaud Ego dans l'atelier contemporain, mais je me rappelle plus.
On va remercier Daniel et l'applaudir parce que.